Aight. Now ladies and gentlemen, this is Rockers.
Grosso et
Roger Fringant,
sans oublier
Tom, mais accompagné
de
Grandvitch,
le retour, le grand retour.
J'étais perdu, je suis revenu, c'est bon, j'ai retrouvé le chemin.
Bien. Alors vous nous aviez quitté pour un événement exceptionnel. C'est vrai que là, foin de cours de poney intensif. Il s'agissait plutôt de l'agrandissement de votre famille, c'est bien ça.
C'est ça, il y a plus de place dans la maison, ça y est.
Voilà, d'une paternité, et c'est pas une excuse pour pas venir faire des le décès, même le décès. Je sais pas si c'est une excuse ou pas. Bref, c'est bien de recommencer. Vous savez, on a essayé de déstructurer. Bon, ben voilà, on est revenu à des valeurs beaucoup plus simples.
Non, mais on vous a entendu, on expliquera ça tout à l'heure. Vous verrez pourquoi, chers auditeurs, Jean-Louis est un peu tendu aussi. On va pas trop déstructurer l'émission comme on avait un peu pris d'habitude avec notre ami Tom, histoire de lui faire bouger son cul. Donc, Grandvitch est là, Tom est là, Jean-Louis
est là,
tout le monde est là, c'est parfait. Un petit dix, et puis après on présentera brièvement l'émission. Après quoi, ce sera la semaine des grignoux pendant, jusqu'à moins 20, on va dire.
Attendez, vu votre dossier, je pense que ça va prendre la sacrée
moins 20, moins le quart, et mettons maximum. Et après, on vous parlera tout de suite après le dix du sujet qu'on reçoit ce soir.
Voilà, c'est parti.
All of my thoughts, all of my girls coming up and take request parking. Shining from the microphone, do not say we get to spark it. Start it, yes. We in a parking lot of parking. Live from across the Atlantic. DJ Quantic, up the sun while you're on the dance floor frantic. Yep. You maybe can't understand it. Ever since Quantic that it, either city is granted. So you better dip on it. Yep, you better dip on it, pan it. Or better dip on it. You better dip on it, pan it. Or better dip on it. Dip on it, dip on it, pan it, pan it. Or better dip on it. This day and age, it's a serious time. Hear and if you better see and blind. To the park after dark, when you walk low behind. To avoid being the next victim of a crime. Society of today, self-vigilant benign. A joke that they quick kill your foreless. None of them a drunk, to do anything for a buckle of wine. And the most wicked animal that a mankind. So you better dip on it. Yeah, you better dip on it, pan it. You better dip on it. Yes, you got to dip on it, pan it. Session, you dip on it. Brother, off it. Dip on it, you're off it, dip on it, rain it a fall, but still got it off, yes, dip on the coke, but before
done enough. Over in the east, them I call out them bluff. Well, now we are gonna see all rough from all tough for the better. Photographer at the window, you know that they're panic. At the window, you know the paparazzi at the window, and taking pictures at the AYC lake, yeah. One thing where we don't run things for ya. For the better, no aim at the AYC lake, yeah. And also, me say, on the better, they're panic. On the better, they're panic. On the better, they're panic. Yep, you're better, they're panic. You're better, they're panic. On the better, they're panic. On the better, they're panic. You're better, they're panic. Zimbabwe dey pon it, you know say Congo dey pon it, Madagascar dey pon it, you know say China dey pon it, and Quantic dey pon it, you know say Bison dey pon it, in dey pon it, for no say B plus no aim dey pon it, J Rock him dey pon it, you know say JFX him dey pon it, Shine him dey pon it, you know say Quantic dey pon it, Big Jump Cheese dey pon it, you know say that is dey pon it.
This is a Quantic production.
Tom, encore une connerie de plus cette année à noter.
C'est une catastrophe. J'avais cru comprendre au dernier symposium des Grignoux.
On s'était mis d'accord.
C'était plus qu'un mis d'accord. J'avais eu le droit. Oui, vos morceaux sont encore trop longs, alors qu'on
trop parfois... court même parfois. Comme
ouais. Et puis en fait, c'était mis d'accord. Ok, du court au début. Et c'est pour ça que Tom ce soir nous met Sleep My Brother. Et ça dure combien de temps?
5 minutes 27.
Voilà. Ce sera à retirer de votre programmation.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en plus de ça, on avait une émission.
Bourré, oui, bah oui, c'est un peu la symptomatique ou la présentation qu'on présente tous les mercredis. Bah, en fait, on peut signaler qu'on écoute les Grignoux sur les mercredis de 20h à 22h, le dimanche dans l'après-midi 15h-15h30.
Ça, tout le monde s'en fout, tout le monde le sait, il y en a marre.
Non, mais et quand
j'ai des plaintes, Jean-Loup. Et quand Tom se plaint, gens... je vais pas déstructurer l'affaire, mais quand même, mon bon Jean-Loup, il y a des plaintes. On vous dit oui, j'ai l'impression d'écouter toujours la même émission.
Bah oui, non, mais il faut bien. Hein, mais comment
non, si vous déstructurez, les gens disent, c'était laquelle déstructurée?
C'est un peu nouveau.
Ouais, voilà. Et on raccroche, c'est un petit peu comme quand vous êtes à la pêche, il faut de temps en temps bouger le leurre.
Bon bah...
Voilà. Et donc, on passe le dimanche, on passe les rediffusions de tout ça que tout le monde s'en fiche, et on arrive directement au vif du sujet, et c'est vous qui allez l'annoncer. Moi, je dis juste qu'on reçoit l'association Al-Anon.
Non, Al-Anon. Ah, oui, oui, justement, parce que, enfin, on en parlera tout à l'heure quand on présentera de l'émission. C'est pas une association, bretonne, parce que celui-ci croyait que c'était Al-Anon.
Bien
non,
tenté.
Al-Anon. Et une, bah, c'est une association, en fait, ancienne, très ancienne, et dont le but, alors, on parle souvent des, du problème de l'alcool, de l'alcoolique, etc. Et on oublie, un des éléments primordial là-dedans, en fait, c'est l'entourage, souvent qui morfle le premier, qui essaye de faire évoluer les choses. Autant il y a plein de structures autour de l'alcoolique ou de en lui-même, il y en a pas forcément pour accueillir
pour les proches,
pas pour les proches, oui, qui sont un petit peu en situation parfois de désespérance. Et c'est pour ça qu'on a décidé de d'inviter ce soir Max, Caro et Anne de l'association Al-Anon, justement pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste cet assaut, quel est son but et son histoire, etc., etc., etc. Voilà. Et bonsoir Max.
Bonsoir. Tout à fait. Du coup, c'est effectivement il y a les alcooliques anonymes qui existent en fait pour traiter la question de la consommation abusive d'alcool. Et parallèlement, une fraternité s'est créée aussi, qui s'appelle les Al-Anon. Et cette fraternité a été créée un petit peu en parallèle, c'est-à-dire que les alcooliques anonymes ont été créés en 1935 par Bill et Bob, deux alcooliques qui ont justement créé les alcooliques anonymes pour se rétablir de cette question. Et l'épouse de Bill, Loïs, a créé en parallèle cette association Al-Anon parce que elle a pu observer que c'était un problème, un mal familial et qui touchait toutes les personnes qui avaient un contact avec une personne qui avait un problème d'alcool.
Et ça, c'était écrit dans les années 40,
je dis pas du tout. 1935,
voilà. Alors,
en 1935, Bill et Bob ont créé les alcooliques anonymes aux États-Unis et Al-Anon s'est créé, donc quand même quelques années plus tard, en 1951.
Ah oui, quand même, ouais, je croyais que c'était plus ou moins pareil. On en saura un petit peu plus, qu'on va développer le sujet qui, malheureusement, surtout en Bretagne, je sais pas pourquoi, si c'est une spécificité bretonne par rapport à l'alcool et surtout par rapport à l'entourage, à tel point que Roger, au début, se croyait qu'il y avait une connotation bretonne dans Al-Anon.
J'ai lu ça comme par chez vous, je me serais cru dans le Trégor. Oh. Et donc, du coup, c'est pour ça que je le disais, Al-Anon. Et vous-même, vous avez, alors, il me charge la charrette.
Oui, bien sûr.
Parce que cet ami de 30 ans, le prononçait comme moi, et comme moi était persuadé que c'était une association du Trégor. C'est pour ça qu'il vous parle de la Bretagne.
C'est absolument pas vrai, on en discutera tout à l'heure.
On reviendra justement, sur l'origine géographique de Bill et Bob, d'ailleurs. on s'écoute un petit extrait de programmation à qui? Alors, à moi, du coup, alors.
Bien sûr que non, c'est la mienne, et
oui.
Une minute 20.
2 minutes 35 à peu près.
Oh, ça va,
chacun
alors.
Fait ce qu'il veut, en fait, ok.
Bien sûr, c'est moi qui suis aux commandes.
Oh putain.
Had a stupor, sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever. Came on like a storm. What I felt, it can't be held no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Resist.
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler,
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça que vous voulez.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Bon, rubrique à Roger, hein. Y a
on restructure, quoi, là.
Il n'y a pas de débat. Voilà, on restructure, on loue le travail, alors qu'il fait chaud, je pourrais aller au soleil pour essayer de bronzer un petit peu. Et non, je m'enferme dans ma cave et je regarde plein d'articles, je fouille dans plein d'archives, on m'en envoie. Et tiens, une spéciale dédicace à ma grande sœur, parce qu'elle m'a envoyé un article de journal de Ouest-France. Quand je m'énerve pas sur le Ouest-France de Rennes, je m'énerve sur le Ouest-France version Saint-Brieuc. Ça s'intitule Des masses d'araignées échouées à Plérin. Alors, je rassure les filles. Il ne s'agit pas d'araignées toutes velues qui viennent vous faire chier quand vous allez vous coucher le soir, mais tout simplement d'araignées qui sont très bonnes à manger. Or, il se trouve que les pêcheurs, mon bon Jean-Loup, ils empêchent trop. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils les rejettent. Mais comme ils les rejettent, un peu fatigués quand même, parce qu'elles sont cognées quand même 3 heures derrière le chalut, elles ont été un peu écrabouillées, elles sont toutes bien mortes, on les rejette à l'eau. D'après le journal, on participe à la biomasse, et alors là, ça devient stupéfiant, l'article conclut en disant que c'est la preuve que la biomasse, comme la biomasse se refait tous les 2 ans, ça explique que c'est la preuve que la pêche côtière est respectueuse de la ressource. Et ben voilà, on expliquera ça à tous les gens qui n'ont jamais pu manger de leur vie d'araignée parce que c'est trop cher.
C'est chiant, en plus.
Et alors vous, c'est vrai que vous n'avez pas l'araignée. Parce qu'il faut les
casser, il faut les décortiquer. Alors, faut vraiment aimer ça, là.
Ouais, bah c'est vrai. Il y a des gens qui aiment ça.
Et le pire, c'est les étris. Ah, les étris, je sais pas le.
Ah, les étris, c'est le meilleur. C'est comme des noisettes. Mais je suppose que vous mangez pas de noisettes non plus.
Et c'est bizarre que vous attaquez pas votre rubrique, justement, par le grand séisme politique en train de se passer. Est-ce que peut-être, vous n'avez peut-être pas été voté dimanche dernier?
Non, c'est même pas pour ça.
Ah non, c'est pourquoi alors?
C'est tout simplement parce que finalement, j'avais envie de dire du mal des marins pêcheurs avec cette vue des, parce que la semaine dernière, on recevait, vous savez, les associations qui se battaient, je n'espère pas en vain, contre la ferme des 800 veaux, hein, 800 veaux, élevés en 3 mois, multipliés par 4, puisqu'il y a 12 mois par an, soit plusieurs milliers de veaux.
1400 veaux.
1400 veaux par an, bon an, mal an, bon appétit.
Quel rapport avec l'abstention
L'abstention, encore une fois, j'y viendra après. Ces masses d'araignées pour lesquelles, à défaut de les pêcher, il eût mieux valu déjà se poser la question de savoir s'il était utile de tremper son chalut, parce qu'ils arrêtent pas de dire ben ouais, mais on les ramasse à chaque fois. Alors c'est peut-être lié aussi au mode de pêche, hein, vous savez, les gros chaluts, ce sont des choses qui sont hyper balèzes, qui raclent tout, façon charrue, façon paysan. C'est un peu comme ça que j'ai fait le lien. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre l'agriculture industrielle et la pêche dite côtière respectueuse de l'environnement. Et vous brûlez que nous parlions de effectivement l'abstention, de cette vague
la semaine dernière, vous dites tous les abstentionnistes 10, il faudrait les mettre le long d'un mur.
J'ai jamais dit ça.
Oh, quasiment.
J'ai juste dit, attendez, c'était pour le premier tour. Moi, après, déjà, dans ma circonscription, j'avais le choix entre une En Marche, une candidate En Marche, qui s'appelle Meignery. Il s'agit de la nièce de, du vieux Meignery, qui gouverne, comment, cette circonscription-là depuis des siècles, avant même la République, qui gouvernait déjà la région de Vitry. Ils habitent d'ailleurs toujours dans le château, hein, les Meignery. C'est une tradition.
Oui, mais quand même,
Effectivement, par l'abstention du premier tour, on s'était retrouvé avec ce choix super entre la Meignery pour la République En Marche et comment il s'agit, Plouvier pour la droite, avec, il s'était fait faire des camions de publicité abominables collés sur sa camionnette. On voyait son nez totalement écrabouillé sur la portière droite. C'était assez pitoyable. Il a perdu. C'est bien fait pour son nez. Sauf que revoir revenir, on croyait les avoir chassés par la porte et revoir revenir les ci-devant Meignery, alliés avec les Capets par la fenêtre, eh bien, ça me fait un peu mal au cul.
Oui,
et comme c'était l'anniversaire de ma maman, le 18 juin, et que je rentrais déjà de Brest, j'avais assisté à un autre repas de famille entre l'anniversaire de ma maman, 87 ans, donc dimanche, et effectivement le fait d'aller m'ôter à mettre un bulletin blanc dans l'urne, j'ai choisi d'aller faire la bise à ma maman et je le revendique.
Non, mais au moins pendant 5 ans, on va pas vous entendre râler après ce qui s'est passé.
Là, pas le droit.
C'est facile.
Là. Deuxième tour de merde, vous aviez le choix.
Non, absolument pas. J'avais le choix entre l'UDI et la République En Marche. J'ai voté blanc.
Vous aviez un insoumis
dans. Mais non, sûr que non, là.
C'est pareil.
Non, c'est moi, j'avais.
Vous aviez.
Oui, moi, j'avais.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai fait procuration.
Voilà, voilà.
Est-ce que vous êtes sûr qu'il a vraiment voté insoumis?
Ah, bah alors ça.
Il n'a pas pris. Vous n'avez pas exigé une photo avec son smartphone qu'il aurait pu vous envoyer au moment où il mettait dans l'enveloppe?
Oui, mais après, après la photo, il peut changer, hein.
Bon, non, bref, vous filmez jusqu'à l'urne, dans l'urne.
Dans ma circonscription, 14% de vote blanc, ce qui est pas rien. C'est dommage que ce soit pas encore tout à fait intégré, dans le vote ou dans le fait de comptabiliser tous les votes. Et pareil, alors, qu'est-ce qui m'énerve, votre ami,
Insoumise.
Ah non!
La Méluche.
Alors, avant le premier tour, je, entre les deux tours, nous. Et maintenant qu'il m'a été élu, je. Ouais. Et à la rigueur, il se dévoue même pour être à la tête du groupe parlementaire de la France Insoumise.
Bah, c'est quand même le plus connu.
Bah ouais, mais il le dit d'une manière, allez, les gars, puisque personne veut y aller, je vais bien y aller.
Maintenant, est-ce que ça veut dire effectivement.
C'est pitoyable.
Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il se représenterait dans 5 ans? Ça voudrait dire qu'il aurait 70 ans aux fraises. Ce serait de commencer à être effectivement plus raisonnable.
Bah, je sais pas, nous, entre les deux tours, c'est nous, hein. Vous, chacun, puis maintenant c'est jeu, quoi, là.
Macron, je suis un peu désolé. Mais les initiales d'En Marche, c'est quand même celle de Macron, quand même.
Oui, enfin bon, bref, je sais pas.
Ah, voilà, quand il est pas d'accord. Enfin bon, bref, je suis bien avancé avec ça.
Ouais, j'aime pas. Bref, et aussi, vous avez vu, alors là, pareil, j'avais plus ou moins prévu l'histoire de après le deuxième tour, maintenant que la République En Marche a sa majorité quasiment absolue.
C'est pas quasiment, majorité absolue.
Eh ben, les Bayrou iristes, il y en a plus besoin. Et hop, bingo, il a réussi à les virer.
Surtout que comment ils ont un peu le cul sale, hein, et je crois que c'est effectivement...
Il n'y a pas de mise en examen encore.
Non, mais apparemment, il va y avoir. Et je pense que si Bayrou a quitté ses fonctions, c'est parce qu'il sait qu'il risque d'être mis en examen et que en tant que porteur d'un projet de loi sur la moralité en politique, ça l'a foutu un petit peu mal, mon bon Jean-Loup. Et il se devait de démissionner. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Macron fera plus jamais appel à lui, par exemple pour l'éducation nationale, ou je ne sais pas.
Il n'en a plus besoin, maintenant.
Non, maintenant, il n'en a plus besoin.
Il a tout explosé.
Il a le Vénus dans le Pluton, pourrait-on dire. Effectivement, je pense que ça va, mais cela ne nous regarde pas, mon bon Jean-Loup. Et on va passer à un sujet.
Et vous avez vu le printemps qu'on a cette année? Eh ben, si c'est pas ça l'effet Macron, je sais pas ce que c'est là.
Il faudra voir le chiffre de petits vieux qui vont mourir. Je vous vois déjà qui boit de l'eau, c'est exceptionnel. Là, je dis rien parce que là, on a passé les 35 degrés à l'ombre. Donc effectivement, je vais bien tolérer que vous buviez encore un petit peu d'eau, mais il faudra pas recommencer.
Il va falloir vous y trier.
Un petit dix et puis on finit la rubrique parce que l'heure tourne, mon bon Jean-Loup. They were waste.
the teachers had them by the balls. Decided they were waste. Now it seems that the damage made a hole where there was space. Taking it, breaking it. In your military decoration. No faking it, for the sake of it.
Voilà un Roger tout mou là, qui s'est parlé des araignées qui s'échouaient mollement.
Non, sur la s'échouaient. Il les a tués, Jean-Loup. Il s'agit d'un araignécide, d'un arachnocide.
Quelques remarques,
même pas. Crustacide, puisqu'il s'agit de crustacés. Et moi, j'adore ça avec du pain beurre mayonnaise. C'est une véritable tuerie. Et d'ailleurs, je vois que vous hochez de la tête, cher invité, et vous avez bien raison.
Ah, qu'est-ce qui pourrait vous énerver là?
Non, qui m'a pas énervé, mais qui était pitoyable. On croyait l'affaire enterrée, on croyait que
c'était. Ah, ben j'allais en parler justement.
Je vous grille avec l'affaire Villemin dont ressort les méandres. Et là, il s'agirait en fait des, si j'ai bien compris, de ses beaux-parents,
des supposés
tontons et tatas.
C'est le bordel, c'est une famille ou c'est même pas une famille, c'est des clans qui se haïssent les uns les autres. On avait vu ça dans l'histoire de l'affaire Troidec, là où l'autre cinglé qui n'hésite pas à tuer toute une famille pour des pièces d'or qu'on sait même pas.
Parce que c'est là que je voulais en venir. On accuse les Bretons d'être arriérés. Et ça, c'était.
Il y a le Nord, la Bretagne.
Attendez, on n'a pas encore visité le Nord, c'est bientôt. Et ne dites pas de mal du Nord, parce qu'il paraît que je vais peut-être aller dans une moissonneuse-batteuse de nuit et qu'on va chasser le marcassin. Et donc, du coup, on reviendra là-dessus. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais je pensais la Bretagne enclavée. C'était sans visiter les Vosges que vous visitâtes, d'ailleurs, en ma compagnie, mon bon Jean-Loup. Et nous nous rendîmes en plein hiver, aux alentours du 29, 30 décembre, 31 décembre, à L'Épanche-sur-Vologne.
Pour mener notre propre enquête.
Voilà, le bled maudit de cette affaire Villemin épouvantable. Et d'où il ressort que effectivement, il faut voir le bled. Alors imaginez un bled où il fait déjà plus mauvais que chez nous.
Encaissé dans une vallée. Ouais,
et quand il fait mauvais, il fait mauvais longtemps, voyez. Et quand il doit faire chaud, ça doit être un cagnard de la mort, on crève de chaud, voilà, point barre. Des espèces de collines, plus ou moins boisées, une espèce de rivière qui coule, la Vologne, et plein d'usines en ruine. C'est-à-dire que c'était quand même un pays industriel, plein de petites manufactures. Tout ça est tombé en ruine, et les peu d'habitants qui restent dans cette région maudite, eh bien, comme disait Jean-Loup, eh ben, le clan Villemain se haïssait, se détestait. Et d'après des preuves ADN qui ont été... parce qu'avant, il paraît qu'on n'avait pas un système ADN suffisamment précis pour comment...
Il y a 34 ans, je ne sais même pas si ça existe.
Quand l'affaire a eu lieu, ça n'existait pas, mais il y a eu déjà, il y a quelques années, ils ont ressorti avec l'affaire Villemain, et en fait, ça avait fait Tintin et Milou, mais là, apparemment, ils ont donc incarcéré, si j'ai bien compris, le tonton et la tata du père Villemain.
Le grand tonton, c'est compliqué, attention, ne mélangez pas tout ça.
Qui ont fini, qui sont en cabane et qui seraient apparemment les responsables du...
Non, ils ont été libérés.
Ils ont été libérés.
Enfin, libérés, attendez. Ils ont été libérés, mais plus le droit de se parler, plus le droit... vous savez, la fameuse présomption d'innocence dont les hommes politiques n'ont pas le droit, quelque part. Mais le citoyen normal, heureusement, il y a le droit.
Attendez, vous rigolez.
Il y a le droit. En fait,
qu'est-ce qui lui arrive, ça
y est. Une chose est sûre, moi...
Déstructurons, ouais, passez à la déstructure.
Moi, j'ai une piste que personne ne croit depuis 34 ans, que personne n'a essayé de la suivre. En fait, c'est la thèse du suicide. Personne n'y a pensé à ça.
On a testé comment on enferme notre chien Bobby dans un sac, et Bobby s'est rapidement libéré tout seul et nous a rejoint sur la rive.
Donc c'est pas un suicide en fait.
Non, c'est absolument pas un suicide. C'est super glauque et c'est marrant parce que tous les médias qui ont l'air de pas y toucher, pouf, du jour au lendemain, ils ne parlaient plus que de ça.
On veut savoir quand même.
Et on ne saura jamais.
Et c'est vrai que nous, on a été, enfin, élevé, c'est un peu exagéré, mais l'affaire Grégory, ça nous poursuit depuis depuis 34 ans. Et j'aimerais bien savoir qui a fait le coup, mais je suis même pas sûr qu'on sache. Peut-être un jour, qui sait.
Voilà. Et pour terminer, tiens, une petite brève pour montrer quand même l'activisme. Ça serait peut-être la dernière fois que je dirais du mal du gouvernement précédent et de la présidente présidente.
Vous aviez voté à l'époque, je m'en souviens.
C'était à propos de l'antiracisme. Chaque 21 mars, vous savez, on avait décidé d'installer la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Mais derrière ça se cachaient des faits beaucoup plus concrets avec des rapports et des évaluations, etc. Mais Matignon, finalement, avait demandé que le rapport ne soit remis que début avril. Début avril, pour vous rappeler quand même, c'était les présidentielles. Voilà. Voilà comment, effectivement, on a pu, effectivement, se retrouver. Parce que là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et c'est aussi là-dessus que j'aimerais finir. C'est on voit le père Cambadélis qui s'en va presque sous les huées. Oui, c'est de ta faute si le PS a disparu. Il faudrait peut-être rappeler quand même que si le PS fait l'objet d'une déroute historique, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas le PS dans son ensemble, mais en tout cas, le gouvernement et avec à sa tête François Hollande, c'est quand même le résultat d'une politique. Au bout de 2 ans, il a dit « Ah ben non, je ne suis pas socialiste, je suis social-démocrate. » Et ben voilà, les gens ont voté pour un social-démocrate.
Qui est en train de porter ses fruits. Vous avez vu, 1,6% de croissance prévue, du jamais vu.
Ça ne sera pas pour son vilain nez, ça sera pour son dauphin.
Voilà,
il nous a dit qu'il était social-démocrate. Et ben effectivement, voilà, il a gagné.
Voilà, mais bon,
il n'y a plus de PS, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus rien.
Et pareil, si vous me posez une date précise sur les élections, moi je regarde sur ma carte d'électeur et je peux vous dire exactement quand a eu lieu.
Il y aura peut-être des élections anticipées.
Qui sait. Bon, un petit disque,
on attaque le sujet.
What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray? How about a new way? I see worries burning inside. Hard to let them go. You belong to somewhere for some reason, 'cause hope seems to hang on. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? How about a new way?
Valium, Tranxène, neuroleptique, morphine, caféine, alcool, héroïne, cannabis, gingembre, psilocybine, mescaline, cocaïne et autres substances psychotropes. Voici un dossier délicat et néanmoins réfléchi, pensé et argumenté par le staff de l'entreprise Grignou. La dope. Attention, dégâts.
Eh bien voilà, je vais pas chipper la parole à mon bon Jean-Loup parce que c'est quand même, allez c'est son jour, par Odin, parce que c'est quand même, il faut le dire, la Saint-Jean, la Saint-Odin et de ce fait, la Saint-Jean-Loup.
Voilà, bah allons-y. Et c'est vrai qu'on parlait justement dans le jingle, on parle beaucoup de psychotropes, etc. Est-ce qu'on parle d'alcool? Bon, il y a une référence, une petite référence, parce que c'est vrai que l'alcool, c'est une sacrée saloperie. Et justement, les personnes de l'association Alanon vont sûrement nous en parler ce soir. Donc on reçoit Max, Anne et Caro, justement de l'association Alanon. Alors justement, Alanon, c'est quelque chose qui vient en fait des alcooliques anonymes, et je crois que c'est Max un peu l'historien ou Caro de l'histoire.
Oui, en fait, c'est Caro.
Donc Caro,
en fait.
Pardon.
Oui, alors les alcooliques, à la base, il y avait, avant même les alcooliques anonymes, il y avait des groupes d'Oxford qui étaient quand même pas mal liés à la religion catholique et qui en fait aidaient déjà les alcooliques. Et il y a un homme qui...
Pourquoi les groupes d'Oxford en Angleterre alors du coup ?
Qui venait d'Angleterre, mais qui était aussi répandu à travers les États-Unis déjà. D'accord. À l'époque. Et puis un homme qui s'appelait Bill... un des deux fondateurs des Alcooliques Anonymes, s'en est inspiré et en fait a compris qu'en fait en partageant ses difficultés qu'il avait avec l'alcool avec un autre alcoolique, que tout de suite il se sentait mieux et il avait l'impression de se libérer de ce mal en fait. Et donc en rencontrant un jour tout à fait par hasard et étant dans un moment de souffrance intense, le docteur Bob, qui était lui-même alcoolique et qui était dans un état aussi terrible que lui avait pu être. Ils ont créé en fait ensemble les Alcooliques Anonymes. Et donc c'était en 1935 aux États-Unis. Et donc Bill et Bob étaient deux hommes qui avaient chacun une épouse. Et donc Bill et Bob ont donc créé les Alcooliques Anonymes, ont créé un premier groupe, puis un deuxième.
En 1935,
En 1935,
ça,
voilà, d'abord qu'aux États-Unis. Et ça s'est répandu à la planète entière au fil des années. C'est arrivé en France en 1953. Et grâce surtout à un bouquin qu'a fait Joseph Kessel qui s'appelle « Avec les alcooliques anonymes » et qui a permis de faire connaître ce mouvement des États-Unis à la France. Et du coup, les premiers groupes s'est monté à Paris en fait, donc en 1953. Mais parallèlement à ça, en fait, Bill avait une épouse qui s'appelait Loïs. Et cette épouse, en fait, avait souhaité pendant des années ardemment que son mari, qu'elle adorait, arrête l'alcool. Mais hélas, l'alcool étant une maladie et non un vice, il n'y parvenait pas malgré tous les efforts qu'il pouvait faire à ce moment-là. Et elle essayait toutes sortes de moyens, hospitalisation, enfin cure. Alors elle les appelait les ivrognes en fait à l'époque. En plus c'est assez, c'est un terme aujourd'hui extrêmement péjoratif. Et en fait elle s'est aperçue qu'à partir du moment où Bill s'est enfin guéri de l'alcool, elle s'est sentie de plus en plus mal en fait dans sa vie, de plus en plus mal à l'aise. Et elle a donc décidé avec d'autres épouses, parce qu'en fait les hommes se réunissaient en réunion alcoolique anonyme et les femmes attendaient dans une pièce à côté que leur mari ait terminé leur réunion pour les retrouver. Et en fait elles se mettaient à se parler tout ça entre elles, et du coup elles se sont dit, pour elles aussi se libérer de ce qu'elles avaient vécu et de ce qu'elles pouvaient vivre encore pour certaines auprès de leur époux, leur fils ou leur père, elles se sont dites qu'elles allaient adapter le programme des Alcooliques Anonymes, parce que c'est un programme en 12 étapes, qu'elles allaient l'adapter aux Alanons. Et donc elles ont créé les Alanons, voilà. Et donc ça s'est créé donc ça s'est passé en 1962 en France que le premier groupe Alanon a été créé.
Toujours avec Loïs là.
Loïs l'a créé aux États-Unis puis à travers sa personne en fait elle a beaucoup donné d'elle pour faire connaître le mouvement à travers le monde hein, parce qu'elle a fait énormément de voyages ensuite et voilà et ça c'est et c'est arrivé en France en 1962 et à partir de ce moment-là c'est vrai que les groupes se sont créés de plus en plus en France et jusqu'en Bretagne jusqu'au fin fond de la Bretagne où aujourd'hui travail, nous parlons.
Et c'est quoi le principe des alcooliques anonymes en fait vous payez de 12 étape Max.
C'est ça. En fait, le programme des Alcooliques Anonymes est un programme qui est construit sur 12 étapes et 12 traditions. C'est vraiment le point névralgique en fait de ce programme-là. Alors, les 12 étapes sont un processus de relèvement, de rétablissement personnel, et les 12 traditions sont finalement les règles qui permettent au groupe de bien fonctionner, justement pour que chacun puisse se rétablir aisément en fait de cette question. Alors le programme en 12 étapes des Alcooliques Anonymes et donc il est né comme l'a expliqué Caroline aux États-Unis et le programme des Alanon est basé en fait exactement sur les mêmes 12 étapes et les mêmes 12 traditions. Alors un petit peu remanié mais alors, c'est intéressant, je relisais la première étape des Alcooliques Anonymes et la première étape des Alanon et en fait c'est exactement la même. C'est-à-dire la première étape déjà en fait pour se rétablir de l'alcool, c'est la première étape c'est déjà admettre qu'on a un problème en fait avec l'alcool et qu'on a perdu la maîtrise de notre vie en fait. C'est vraiment la définition de la première étape.
La phrase connue de « Je m'appelle Jean-Loup, je suis alcoolique enfin, ». C'est souvent comment on résume un petit peu la...
Exactement, c'est comme cela que chacun peut se présenter en alcoolique anonyme. Alors en fait, en Alanon, on ne dit pas alcoolique anonyme. On dit en fait « je suis Alanon ». Et alors, cette première étape, ce qui diffère entre les deux, c'est finalement l'alcoolique, il admet son impuissance par rapport à sa propre consommation d'alcool. Et la personne à l'anon, elle admet son impuissance par rapport à la consommation de l'alcool de l'autre, en fait. Donc en fait, c'est vraiment le fait de reconnaître la maladie alcoolique comme une maladie. Il y a rien à comprendre. Il faut qui est plus forte finalement que chacun. Et il y a simplement à admettre qu'on est impuissant en fait devant cette maladie en fait.
Une dernière question.
Je vais juste revenir sur cette première étape. Est-ce que c'est pas la plus difficile finalement de reconnaître qu'on est addict quoi, à l'alcool, qu'on peut pas s'en passer, qu'il en faut, etc. tout le temps.
C'est effectivement la première et c'est s'il n'y a pas de première étape, il peut pas y avoir les 11 autres évidemment. Et le fait de c'est souvent en fait en réunion on parle de capitulation. C'est parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui ont des problèmes de consommation d'alcool, ils le savent, mais ils n'ont pas capitulé, ils n'ont pas admis. Donc il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la dimension analytique. Vraiment, c'est une sorte de capitulation. C'est souvent en alcoolique anonyme, en fait, les gens arrêtent quand ils en ont marre d'en avoir marre. En fait, c'est un peu souvent la définition que les alcooliques
c'est la capitulation.
C'est exactement ça.
Mettre les deux genoux à terre. En fait,
Souvent, il est dit, on peut enfermer, on peut bâillonner, on peut menacer un alcoolique. S'il n'a pas décidé d'arrêter de boire, il n'arrêtera pas en fait. Donc c'est vraiment cette capitulation qui vient de lui et de lui propre en fait, qui permet le rétablissement ensuite.
Donc si je viens quelque part aux alcooliques anonymes ou dans ce genre de groupe de parole, déjà j'ai fait le pas principal en fait, c'est-à-dire d'admettre que j'ai un problème à ce niveau-là, quoi.
Alors ça c'est effectivement c'est une question intéressante parce que du coup ça pose la question des conditions requises pour être membre en fait de la fraternité. Alors en fait on a justement des traditions et notre troisième tradition elle dit que la seule condition requise pour être membre de la fraternité c'est le désir. Donc en fait pour les alcooliques ça va être le désir d'arrêter de boire. Donc en fait un alcoolique peut très bien aller en réunion en disant qu'il a un problème d'alcool en étant alcoolisé mais il a déjà en fait le désir. Alors après la progressivement la capitulation va venir. Le fait de venir en réunion, d'écouter des partages de relèvements, etc., fait que la personne en vient progressivement à admettre profondément qu'elle a ce problème-là et peut-être à poser le verre. Et en allant non, parce que c'est quand même nous on est quand même en allant non. Et du coup la troisième tradition en fait allant non, la seule condition en fait pour être membre des allant non, c'est le désir de d'aider d'autres personnes qui ont souffert justement de l'alcool de l'autre. Et
Jean-Louis, vous aviez une question?
Ouais, juste. Allons-y. Est-ce que une question complètement idiote, est-ce que ça marche cette méthode? C'est-à-dire que la méthode, alors je reviens toujours sur les alcooliques anonymes, ne vous inquiétez pas, on parlera d'Alano en long, en large et en travers durant l'émission. C'est-à-dire que c'est une méthode, j'ai pas besoin de. C'est une méthode à part entière ou c'est un plus par rapport à un traitement médicamenteux ou autre?
C'est une question intéressante aussi parce que du coup est-ce que ça marche? Souvent on a une sorte de slogan interne, on dit ça marche si on le fait marcher. En fait on a des outils qui sont déjà une réunion. Alors une réunion c'est des hommes et des femmes qui se réunissent justement pour s'entraider donc en fait pour les alcooliques ça va être à s'entraider à résoudre cette question d'alcool. Pour les alanons ça va être s'entraider justement à vivre avec cette question-là, avec ce problème-là en fait. Et donc en fait les outils déjà c'est vivre uniquement pour aujourd'hui. Souvent les gens arrivent en réunion, ils sont abattus, il y a du désespoir, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité, de la honte, de la peur. Et souvent en fait le premier truc c'est vis juste pour aujourd'hui. Hier tu laisses ça hier, demain tu laisses ça demain, juste pour aujourd'hui. T'as peut-être la force d'affronter en fait ta journée. Alors rien que ce petit outil-là, le juste pour aujourd'hui, il est extrêmement puissant.
C'est ce que disaient les bouddhistes le jour qu'on les a reçus. C'est un peu ça.
On s'écoute un petit.
Non, j'avais une autre question, comme un peu générale justement sur Aladdin. Vous parlez surtout de termes de fraternité, etc. Est-ce qu'il y a peut-être on va revenir à l'histoire une connotation religieuse ou un lien avec la religion dans les alcooliques anonymes?
À la base, donc comme c'était c'est inspiré fortement des groupes d'Oxford, effectivement, il y avait une connotation religieuse. Puis on sait bien qu'aux États-Unis aussi, c'est fortement imprégné par les États-Unis sont fortement imprégnés par la religion. Et donc voilà, à la base c'était ça. Mais en fait, aux Al-Anon, comme dans toutes les fraternités à 12 étapes, hein, on ne parle pas de Dieu, d'un Dieu. Enfin, on parle de Dieu, mais en fait, Dieu, c'est une puissance supérieure. C'est-à-dire que c'est pas Jésus, c'est pas Allah,
c'est plus agnostique quelque part.
C'est vraiment une question importante parce que on est sur un programme justement, et c'est ce qui fait sa force à mon sens. C'est un programme spirituel, mais non pas religieux. Et alors on est dans une spiritualité tout à fait ouverte, c'est-à-dire que effectivement les 12 étapes elles sont imprégnées d'une. On nous invite à faire confiance à une source bienveillante, une force bienveillante qu'on appelle effectivement puissance supérieure, mais chacun a la possibilité de la concevoir ou pas, voilà, selon son background, etc. Alors, en fait, juste pour terminer, c'est vraiment cette dimension spirituelle qui à mon sens donne justement de la force en fait aux 12 étapes et la grande ouverture aussi des 12 étapes, c'est que cet espace spirituel il est ouvert pour tous, pour n'importe quelle confession religieuse ou même pour ceux qui n'ont pas de confession religieuse. C'est-à-dire que chacun a le droit de se développer spirituellement et d'appréhender en fait son rétablissement avec un développement spirituel qui peut découvrir, rechercher, développer. C'est vraiment incroyable.
Le conçoit, quoi, en fait.
C'est un peu, je veux dire, je vais peut-être poser une question un peu idiote, mais comment est-ce qu'on a vraiment besoin de, justement, pour guérir de ce genre d'addiction, effectivement, de faire appel à une philosophie religieuse ou une sorte de mystique? Pour vous, vous considérez que ça fait partie de ces douze étapes, donc ça imprègne totalement les 12 étapes, du coup.
Exactement, parce qu'en fait, après la première étape, en fait, la première étape, c'est une capitulation. Donc c'est vraiment, comme disait, en fait, Caroline, les deux genoux à terre, j'y arrive pas, je suis impuissant, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Alors après, en fait, ok, une fois qu'on a admis ça, après, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la deuxième et la troisième étape sont juste derrière, et elles nous invitent, justement, à croire en une force bienveillante telle qu'on la conçoit et à s'en remettre à cette puissance. Du coup, ça, c'est très ouvert. Et en même temps, c'est-à-dire que derrière cette acceptation de d'avoir échoué finalement, personnellement, le programme en 12 étapes nous propose de faire confiance à autre chose que notre propre volonté, souvent qu'on nomme comme une volonté déchaînée en fait, obsessionnelle, etc. Et de faire confiance à une autre force.
Mais est-ce qu'on fait pas appel du coup à une autre forme d'addiction du coup, parce que du coup est-ce que on va échapper d'alcool pour tomber sous une autre forme d'addiction? On voit bien par exemple comment parfois la religion peut être source d'horreur. On voit bien par exemple.
Alors c'est la raison pour laquelle le programme ne parle pas de religion mais de spiritualité. Et alors la force, la source, c'est une source bienveillante. La caractéristique de l'addiction, justement, vous vouliez qu'on parle un petit peu en fait de l'alcoolisme et de la définition de l'alcoolique. Alcoolique, ça veut dire quoi? Alcoolique, ça veut dire être addict, en fait, avoir une addiction par rapport à l'alcool. L'addiction, la définition même de l'addiction, c'est être incapable d'arrêter un comportement autodestructeur en dépit du fait qu'on se détruise. Et l'invitation au programme, justement, c'est la deuxième et la troisième étape. Ça, elle nous propose
qu'on détruit autour de soi.
Oui, qu'on se détruise.
D'où Alan.
Et forcément,
ça, c'est effectivement, ça, c'est vrai. On peut pas le nier.
Et du coup, la force bienveillante, justement, elle est bienvenue par rapport à ça.
On va s'écouter. Vous croyez pas que comment on peut arriver à une thérapie sans faire appel justement à cette force bien supérieure ou bienveillante?
Personnellement, je suis membre à l'Anon, je pratique les 12 étapes et je trouve que c'est une bonne méthode. C'est pas la méthode. Il y a pas de dogmatisme en fait en l'Anon. C'est une proposition. Alors ce qui est bien dans ce programme là, c'est que rien n'est imposé, tout est suggéré. Ouais. Si un alcoolique qui a pas envie de venir en réunion et qui a envie d'aller boire, il y a personne qui va aller le chercher pour lui dire viens en réunion, arrête de boire. Et puis s'il a envie de partir, il part. Vous voyez, c'est simplement une proposition. Un espace ouvert avec des outils qui selon nous fonctionnent et si la personne souhaite ne pas adhérer, il n'y a aucun souci.
Et puis si en fait la spiritualité, ça peut être la puissance supérieure, donc comme on l'appelle, c'est un peu secte la façon dont je parle, mais en fait c'est pas du tout ça, mais ça peut être la force du groupe quoi, en fait, pour certains qui n'ont absolument aucune aptitude ou envie de s'adresser à une puissance spirituelle qu'ils n'arrivent pas à concevoir, ça peut être la force du groupe en fait, c'est l'espèce d'énergie qui se crée au fil des rencontres et qui fait que la personne trouve la force en elle et croit en fait que ça va pouvoir
c'est vraiment l'aider, important ce que tu dis Caroline, parce que effectivement la question de Dieu, de la spiritualité, de puissance spirituelle, il y en a beaucoup en fait, on est beaucoup à arriver à avoir des expériences pas forcément heureuses avec cette question là et donc du coup avoir l'espace de pouvoir appréhender cette spiritualité de manière ouverte, et donc voilà, au début c'est simplement il y a du monde, on peut partager, on s'identifie aux autres partages, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a l'énergie, la force du groupe, on boit un café en fait à la fin de la réunion, on s'échange les numéros de téléphone, ce qui fait qu'il y a en fait une sorte de coupure par rapport à l'isolement qui est aussi un des traits de la maladie, c'est-à-dire s'isoler puis ruminer tout seul. Donc ça c'est
on va s'écouter un petit disque le temps de digérer tout ça là, c'est parti. À moins que Roger une dernière question sur le
Redhead, Miss Bed, Tearshed, Queen Bee, Miss Squeaks. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Eh bien voilà, on est toujours en compagnie des membres de l'association Al Anon, et non pas breton comme on l'a dit tout à l'heure. On a beaucoup parlé effectivement jusqu'à présent des alcooliques anonymes, hein, mais comment que nos auditeurs se rassurent, on a largement le temps effectivement d'aborder le vif du sujet en ce qui concerne l'association Al Anon. Mais je crois que Jean-Loup, vous aviez encore une question à poser.
Ouais, une question d'ordre généraliste, et je pense qu'il a, apparemment c'est très dur d'y répondre. C'est quoi l'alcoolisme en fait? Est-ce que si je bois, je sais pas moi, 4-5 bières tous les soirs sans être ivre, je suis alcoolique? Est-ce que si je bois un litre de whisky, mais une fois par semaine, je bois de l'eau le reste de la semaine, est-ce que je suis alcoolique?
Non.
Est-ce qu'il y a une définition médicale ou je sais pas?
C'est aussi une question intéressante justement. Qui va définir en fait le fait qu'une personne en fait est alcoolique ou pas? C'est-à-dire c'est elle-même. La réponse elle est dans la première étape. Hein. La première étape elle dit j'ai admis que je suis impuissant devant l'alcool et que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Du coup à partir de quand est-ce que je considère que j'ai perdu la maîtrise de ma vie? Pour certains, souvent en fait, Léa ils disent avoir touché leur fond. Mais alors en fait le fond il diffère pour chacun. Pour certains ça va être perdre son travail, ça va être le divorce, ça va être la prison, ça peut aller jusque là, et pour d'autres ça va être avoir une vie peut-être qui manque de sens, qui manque de joie, etc. Donc en fait c'est vraiment chacun qui va définir en fait si il est alcoolique. Il y a personne en A qui va dire toi t'es alcoolique ou toi t'es pas alcoolique. Il y a pas de critères. En fait c'est vraiment son rapport avec la consommation. Ce qui est intéressant justement, c'est que souvent on dit je suis pas responsable de la maladie, mais je suis responsable du rétablissement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est moi qui décide. Est-ce que mon problème aujourd'hui est suffisamment important pour que je le traite ou pas? Après, il y a évidemment différents degrés. Il y en a qui leur fond c'est le cimetière, et il y en a d'autres c'est simplement le fait d'être un peu triste dans la vie, quoi.
Mais avec votre définition, en fait, en France, il doit pas avoir beaucoup d'alcooliques. dans le sens où il faut qu'il y ait une prise de conscience.
C'est-à-dire que
non, moi je gère, j'arrête quand je veux.
Les membres de l'Alcoolique Anonyme sont pas habilités justement. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça aussi la force du programme. Mais chacun parle en son nom et chacun se définit. Mais c'est une personne peut penser qu'une autre personne a un problème d'alcool, mais en aucun cas chez les AA, une personne va dire toi t'es alcoolique et toi t'y es pas. En fait, c'est vraiment chacun qui va. Donc effectivement, il y a peut-être beaucoup d'alcooliques en France qui s'ignorent.
Sans vouloir recentrer le débat, on est quand même venu pour parler de Alano.
J'ai fini, mais
c'est ça.
Générale,
c'est ça. Mais en fait, comme on a eu des questions sur les âges, je pense que c'est bien. C'est bien aussi de comme on dit, c'est un mal familial, et c'est bien aussi d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que d'avoir une vue d'ensemble, donc des alcooliques anonymes aussi, savoir ce que c'est pour pouvoir après mieux parler, en fait, parce qu'il nous reste quand même du temps.
On a du temps.
Mieux parler et davantage parler effectivement de ce pourquoi nous sommes venus, c'est-à-dire les personnes qui vivons et ou avons vécu avec une personne qui a un problème abusif d'alcool, et comment est-ce qu'on a été affecté par cela, et comment est-ce qu'on peut se rétablir via Al-Anon avec le programme.
Tout à fait, puisque de toute façon il y a un lien entre l'association Al-Anon et l'alcool, en fait, tout simplement.
Oui, oui, c'est un, oui, tout à fait, oui.
Alors moi j'aimerais quand même qu'on en vienne aussi à Anne, comment ça va peut-être nous permettre de recentrer le débat justement. Comment vous, Anne, avez-vous connu les Al-Anon, justement? Alors, je dis toujours Al-Anon, mais c'est de la faute de mon
Al-Anon.
Ami qui, à chaque fois que je vais en vacances chez lui dans le Trégor, je prends l'accent parce que je suis un peu bronzé, j'ai peur qu'il me jette des roches. Alors Al-Anon, non. Et puis je parle avec l'accent comme ça, je mange du beurre, énormément de beurre. Donc Anne, comment avez-vous découvert Al-Anon?
Eh bien, bonsoir déjà tout le monde. J'ai découvert Al-Anon parce que j'ai assisté à une réunion AA, justement, qui était ouverte. Parce qu'il y en a qui sont ouvertes à des personnes qui ne se disent pas alcooliques. Et là, j'ai rencontré deux Al-Anon qui étaient également présentes et qui m'ont présenté l'association. Donc j'ai découvert comme ça.
Alors du coup, vous, par exemple, enfin je sais pas si vous n'êtes pas forcément répondre, mais vous n'aviez pas de problème d'addiction d'alcool lorsque vous avez été à cette association-ci?
Non, par contre, j'accompagnais mon ami qui est alcoolique.
D'accord. Et c'est justement, je sais pas, vous avez été surprise de savoir qu'il y avait justement une association pour aider les compagnes ou les compagnons de personnes qui sont sous addiction?
Surprise peut-être pas, mais en tout cas j'ai appris quelque chose parce que j'ignorais que ça existait jusque-là.
Ah, alors vous avez rejoint cette association du coup?
Oui.
Alors comment ça se passe les réunions? J'ai envie de vous demander, hop, on arrive, on discute, un peu comme ce qu'on voit dans les films américains, etc., les gens qui discutent.
En général on arrive, on discute un petit peu, mais on met vite en place la réunion. Y a quelqu'un qui modère, c'est-à-dire qui va lire comme une espèce de, je sais pas comment on appellerait ça,
préambule.
Ouais, voilà, un préambule en fait. Et ensuite on va aborder des thèmes selon les semaines, on va changer de thème, mais on est libre en fait de partager à tour de rôle en fait sur ce qu'on veut. Alors, soit on peut parler du thème, mais on peut parler aussi de ce qu'on vit, en bien, en mal, de ce qu'on a vécu la semaine dernière, de choses basiques ou de notre passé, de l'alcoolique ou non, qu'on a connu. Et il n'y a pas d'interruption et d'intervention lorsqu'on parle. Il n'y a pas de jugement non plus de la part des autres. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on partage, c'est anonyme, on est anonyme. Donc personne ne connaît notre identité véritable, et surtout personne ne connaît notre profession. Et ça permet finalement de l'absence de jugement en fait. Parce que si on connaît notre profession, par exemple, imaginons que, bon allez, je vais dire que je suis médecin, et ben tout le monde va me juger comme médecin, et peut-être qu'on va me ranger dans une certaine classe sociale, et que finalement on va plus m'écouter, moi en tant que personne, mais qu'on va écouter un médecin, quoi.
Alors c'est marrant, vous parlez de médecin, et une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe des traitements médicamenteux qui permettent de lutter contre l'alcool, ou c'est simplement du palliatif, j'en sais rien?
Alors il existe un médicament qui s'appelle le baclofène.
Qui fait beaucoup de... Allez-y, oui, qui est très efficace, paraît-il.
Ben, disons que c'est un médicament qui va permettre de stopper l'addiction, dans le sens où on va pouvoir consommer sans avoir l'envie de consommer beaucoup plus et toujours plus, en fait.
Ça donne
ça stoppe ça... le ce qu'on appelle le craving en fait, la volonté
c'est
de
l'obsession quoi, c'est-à-dire souvent la maladie addictive en général et donc alcoolique en particulier, elle est caractérisée par l'obsession et la compulsion. Et du coup ce que je comprends de ce que dit Anne, c'est que ce médicament en fait il stopperait les obsessions et donc les compulsions.
Voilà, mais sauf que comme beaucoup de médicaments, ça va traiter les symptômes mais pas la cause.
Mais pas la cause.
Et la cause, pour moi, c'est en fait, il me semble, mais après, je suis pas alcoolique, donc moi, je parle comme ça d'après ce que je sais, mais beaucoup d'alcooliques disent que finalement, c'est une cause multiple et c'est une certaine façon de vivre ses émotions, voilà, c'est une façon de vivre au quotidien en fait qu'il faut réapprendre à vivre en fait pour apprendre à vivre sans l'alcool aussi quoi. Du coup voilà.
C'est vrai que c'est un sujet intéressant, mais du coup en fait on peut aussi, enfin c'est-à-dire on peut recentrer le débat aussi justement sur le fait de nous en fait on vient vraiment pour ouais. parler du rétablissement du fait de vivre ou d'avoir vécu en fait avec une personne ayant une consommation abusive en fait d'alcool. Du coup les médicaments etc, c'est pas trop
oui c'est vraiment en fait on n'a pas à parler de médicaments, c'est les addictologues qui peuvent plutôt en parler, des médecins psychiatriques.
Anne, peut-être qu'avant de vous rejoindre, peut-être qu'elle avait testé avec son conjoint, je sais pas, justement du baclofène, j'en sais rien, moi. Est-ce que les gens vont vous voir en désespoir de cause parce qu'ils se rendent compte que le baclofène, par exemple, n'est pas, j'en sais rien.
Il y a tout un parcours avant de venir nous voir en fait, avant de venir à Alano en fait, parce que c'est une série de souffrances, des périodes de souffrance ajoutées à des périodes d'isolement, ajoutées à des périodes d'espoir, ajoutées à des périodes à nouveau de souffrance, qui font qu'à beau jour, les personnes entendent parler de Alano d'une manière ou d'une autre, parce que donc on a un site internet, enfin c'est comme ça existe à travers la France entière, enfin à travers le monde même, et du coup ils viennent et en fait ils pensent qu'on a une solution pour l'alcoolique, mais en fait, la solution, on l'a pour nous-mêmes, en fait, pour soi-même, en fait. On l'a pas pour l'alcoolique. Mais le fait d'avoir un programme de rétablissement, d'avoir ces partages particuliers entre personnes ayant connu le même problème, fait qu'on va se sentir mieux. Et se sentant mieux, nous, il y a des chances pour que ça ait des répercussions sur la personne alcoolique de l'entourage.
Souvent,
voilà.
Souvent,
c'est ça. Notre programme, c'est ça, en fait. Avant tout.
Et parce que tu, en fait, si je peux
Me
permettre. Du coup, en fait, moi, je veux bien parler un petit peu de mon expérience, puisque, en fait, moi, j'ai pas vécu avec une conjointe alcoolique. Je suis enfant adulte d'alcoolique. Donc, j'ai vécu avec, c'est-à-dire que c'est mon père qui avait un problème d'alcool. Et du coup, j'ai vraiment vécu, toute une enfance avec ce problème d'alcool présent et donc avec ce que ça occasionne et aussi c'est donc moi j'ai découvert Alano c'est-à-dire que comme je vivais avec ce problème là enfin c'était normal, vous voyez, enfin en tant qu'enfant je me disais pas qu'il y avait un problème, je me disais c'est normal, je dois faire avec et c'est finalement jeune adulte j'ai commencé à ressentir des difficultés de communication, des peurs exacerbées, de l'anxiété, de la honte, de la culpabilité, je savais pas trop d'où ça venait. Alors ma mère nous avait proposé à ma sœur et à moi-même d'aller en Alatine, parce qu'il y a aussi une fraternité qui est comme les Alanons finalement, mais c'est les Alatines, c'est pour les mineurs en fait, c'est pour les enfants en fait d'alcooliques. Donc c'est le même programme.
Ça dépend
en fait.
D'Alanon, oui.
C'est affilié en fait à Alanon. Et alors moi à l'époque j'étais encore dans cette volonté déchaînée mais inconsciente. J'avais honte, mais j'avais peur. Du coup je voulais surprotéger mon père, je voulais surtout pas dire qu'il était alcoolique. Pour moi je pouvais, enfin c'était très, tout ça était très confus. Et il a fallu que je tombe assez bas, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'en vienne même à être très déprimé, que je prenne des psychotropes, etc., pour me dire peut-être que j'ai été affecté par des difficultés qui sont liées à l'alcool et peut-être que une fraternité peut m'aider. Et moi j'avais surtout pas envie d'aller parler de moi devant d'autres personnes, etc. Et donc j'ai poussé la porte des Alanons et Et alors ça c'est un processus, donc on, vous voyez, c'est, mais j'ai ressenti, en tout cas il y a une quelque chose qui a été très très fort et très puissant pour moi, c'est j'ai le sentiment d'avoir camouflé mes émotions pendant des années, et du coup il y avait des personnes autour de la table qui partageaient leurs émotions. Alors ça, c'est un truc c'est, et donc j'ai l'impression d'avoir contacté pour la première fois mon monde émotionnel à travers le monde émotionnel, en fait, du partage des autres. Et c'est le programme fonctionne beaucoup comme ça, par un processus d'identification, c'est-à-dire que l'autre parle de lui et finalement il y a une sorte de résonance qui fait que je m'identifie ou pas. Et
est-ce que l'association voilà donne, moi j'imagine aussi parfois le quotidien des conjoints, conjointes de personnes alcooliques comme étant parfois pas très rigolo, parfois des actes de violence, etc. Est-ce que le fait d'aller discuter chez Al-Anon, est-ce que Al-Anon va offrir aussi des parce qu'il y a des gens qui osent pas aller à la, qui osent pas se plaindre, etc., qui restent, qui vivent, qui souffrent en silence, et est-ce que l'assaut Al-Anon peut offrir ce genre de remède, enfin d'aide en tout cas?
On va jamais donner de solution on va jamais se prononcer en disant tu vis cette situation là et tu vas faire comme ça parce que c'est la solution à adopter. Les seuls remèdes qu'on pourrait donner et qu'on donne en Al-Anon, en fait, ça va être du coup le partage, parce que il me semble à moi que c'est vraiment un remède de vider son sac et aussi d'écouter les autres et de voir qu'on n'est pas seul à vivre ça, quoi. Ça va être ça. Ça va être deuxième outil, ça va être la littérature, où on a aussi des expériences qui nous sont racontées d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous parler, et on peut s'identifier à ces personnes-là et rapprocher notre expérience personnelle de leurs expériences. Et finalement trouver peut-être des solutions qui nous parlent, en tout cas, quoi.
Ça quand je t'entends là, Anne, si on avait vraiment la solution et si on était certain vraiment qu'Al-Anon marche, allait marcher,
gens,
en fait.
Les gens qui viennent vous voir à franchir le pas, certains pas qu'ils n'osent pas franchir grâce à la discussion, grâce à la confrontation avec d'autres expériences semblables, c'est ça dont je voulais parler.
Je comprends pas la question.
C'est-à-dire que vous fréquentez de fait des gens qui ont vécu plus ou moins les mêmes situations liées à l'alcool et les conséquences qu'on en subit, et est-ce que justement le fait de discuter avec ces gens-là, ça vous aide parfois? Parce que moi je reviens toujours à ces exemples de personnes qui n'osent pas franchir le pas d'aller jusqu'au commissariat, se plaindre de mauvais traitements, etc.
Oui, alors c'est ça, c'est en fait effectivement la variété et la multitude en fait des partages fait qu'à un moment on peut s'identifier en fait à l'expérience d'une autre personne, et ça peut nous aider personnellement. Moi je sais que le fait d'entendre l'expérience d'autres personnes, ça me donne de la force, en fait, parce que du coup une autre personne vit, je ne suis plus tout seul avec mon problème, et il y a une autre personne qui vit aussi le même genre de problème, et du coup ça peut être possible.
Les victimes peuvent considérer que c'est normal, en fait, le fait qu'elles en chient comme ça régulièrement, c'est normal, et en fait c'est pas normal.
Exactement, et c'est pour ça que le programme est aussi une découverte, parce que par rapport à mon expérience, moi je pensais que c'était normal d'avoir vécu dans ce contexte-là, je pensais que c'était normal d'avoir peur, d'avoir honte, voilà, etc. Et en fait, j'entends en réunion des gens qui ont eu peur, qui ont eu de la culpabilité, et qui se sont, comment dire, qui ont dépassé en fait ces sentiments, j'en viens aussi à me dire que c'est possible pour moi et que je peux avoir une vie nettement meilleure que celle que je vivais avant, exactement.
On va s'écouter un petit lit si on continue notre discussion.
C'est black dress on my collar when I kiss on my bed, lying all night by the light of the moon. Oh, I'm burning, feeling from my head and my fin. You got me on your case, now you're the one to miss. Well, I'm alone now, baby, down in a trap of yellow. Well, I'm alone now, baby, down in a trap of yellow. Down in a jungle where the jungle jump in. If you under the wind, you can find a chin. What a pretty feeling from my head and my fear. You got me on your back, now you're not going to hear. Well, I'm alone now, baby, down in the top of your nose. Well, I'm alone now, baby, down in the top of your nose.
the towns I'm been.
Voilà, toujours en compagnie de l'association Al-Anon, et cette fois-ci, c'est promis, Jean-Loup, je vous laisse poser une question.
Justement, Caro, comment vous êtes arrivé dans l'association? C'est quoi votre démarche personnelle? Et tout le monde est passé à la casserole, entre guillemets.
Oui, bah pareil, en fait, moi, j'ai connu, au départ, j'ai pensé, je me souviens très bien... avoir pensé à l'association des alcooliques anonymes à travers un sketch de Guy Bedos sur l'annuaire de Paris, et ça commençait par A alcoolique anonyme, A anciens alcooliques anonymes, et en fait j'ai appelé les alcooliques anonymes et ils m'ont parlé spontanément en parlant de mon problème, ils m'ont parlé de Al-Anon, en fait Al-Anon, donc c'est Al pour alcoolique et Anon anonyme, hein, donc
vous prononcez un peu la Trégorroise aussi.
À force de vous côtoyer, hein.
Et quel sentiment qui domine justement pour chez les gens qui s'adressent chez vous, c'est la honte, la culpabilité, l'impuissance,
la culpabilité, en fait la culpabilité quand il s'agit
C'est curieux.
Après en fait, parce que me concernant, c'était plutôt un problème avec mon enfant. Donc c'est un problème, c'est avec différent. Mon enfant. Donc d'accord. En fait, en tant que mère, en tant que maman, c'est une culpabilité énorme. On se demande ce qu'on n'a pas su faire. Et voilà, mais bon, au sein de ma famille, j'ai eu d'autres membres atteints de cette maladie, en fait, parce que donc on dit que c'est une maladie, hein, c'est pas du tout un vice, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes
pensent. Comment ça se fait que ça n'évolue pas, justement, l'image autour de ça? Parce que je trouve que autant pour les drogues dites modernes, on va dire, comment on va parler de cocaïne, héroïne, marijuana, etc., on va avoir un discours plus facilement médical que pour l'alcool, où finalement, si t'as le nez dedans, c'est un peu de ta faute.
Je trouve que quand même, malgré tout, ça évolue quand même un petit peu.
Ouais.
Mais c'est vrai que néanmoins, il y a encore, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que ça reste encore une tare, une honte. Des gens qui n'ont pas de volonté, qui s'écoutent trop, voilà, qui se trouvent toutes les raisons du monde pour boire, mais.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant, justement, pour revenir à notre position en tant que membre à l'Anon et par rapport à l'alcool, c'est que, justement, en tant que maladie, le programme des Al-Anon nous apprend à dissocier la maladie de la personne, et
c'est vrai,
le programme nous aide justement à vivre. Alors on peut choisir de se séparer de la personne avec laquelle on vit, mais on peut aussi, comme beaucoup, décide de continuer à vivre avec la personne qui a un problème d'alcool, et de continuer à l'aimer, et du coup il y a un travail qui est assez subtil à faire, hein, à dissocier justement la personne malade, pouvoir continuer à s'occuper d'elle sans s'autodétruire, c'est-à-dire reconnaître ses limites. En fait, c'est un thème qui revient souvent dans nos réunions, c'est pratiquer le détachement avec amour, c'est-à-dire se détacher du problème et continuer à aimer la personne.
Alors ça, c'est une notion très compliquée,
quelque chose qui est finalement très 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 spirituel, hein. Continuer à manifester de l'amour à la personne qui elle-même est en difficulté, et en continuant à prendre soin de soi-même, c'est-à-dire sans se détruire. Ça, c'est vraiment le...
Ce n'est pas évident du tout, ce que vous dites, surtout si la personne, même si elle est mal, etc., sans tomber dans les violences physiques, il y a les violences psychologiques aussi, qui sont destructrices, peut-être plus que les coups.
Exactement. Enfin, alors, personnellement, moi, j'ai pas été conjoint, j'ai été enfant, et j'ai été aussi souvent dans l'incompréhension de ma mère, qui malgré la violence, malgré les difficultés, continuait à témoigner, en fait. Et en fait, on parlait de violence aussi. Moi, j'ai assisté à de la violence physique de la part de mon père envers ma mère, etc. Et du coup, progressivement, elle a réussi à mettre des limites de manière à ce que son intégrité soit pas en jeu, en fait. Moi personnellement, pour aujourd'hui, j'ai suffisamment vécu avec l'alcool pour avoir décidé de pas vivre à nouveau ça, mais c'est mon choix, c'est mon choix possible au sein d'Alanon, mais il y a aussi d'autres choix possibles, et beaucoup de conjointes en fait choisissent de continuer à aimer leur conjoint et à s'occuper de d'elles-mêmes aussi et de la personne aussi, ce qui est vraiment l'enjeu du programme en fait.
Et est-ce que je peux m'adresser à Alanon alors que mon compagnon, mon père, mon fils ne participe à aucune démarche active, ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'alcoolique en France, où j'ironisais un petit peu là-dessus, le déni, je crois que c'est ce qu'il y a de plus balèze à surmonter pour quelqu'un qui, avant de pouvoir fréquenter les alcooliques autour de moi, avant de faire admettre qu'il y a un gros problème avec l'alcool, faut ramer quand même,
complètement.
Il y a certains, là, ne mettent jamais.
Exactement. Et alors, en fait, souvent, justement, en Alanon, il y a beaucoup de personnes qui viennent au début et ils viennent et ils disent, voilà, j'ai pas de problème, mais mon conjoint, etc., mon ami, etc., a un problème, voilà. Et en fait, ils veulent des solutions pour les autres. Et en fait, ce que propose le programme Alanon, c'est finalement, pour s'occuper au mieux de l'autre, il faut que tu t'occupes au mieux de toi.
C'est vraiment le fait
de s'occuper de soi-même qui peut inciter en fait l'alcoolique à arrêter. Et en fait, c'est aussi très parce que il y a aussi dans la maladie Alanon, hein, qui est aussi une maladie, il y a aussi souvent un thème qui revient souvent, c'est-à-dire le contrôle, c'est-à-dire la personne pense qu'avec son amour, etc., elle peut faire arrêter l'autre. Et en fait, le fait de reconnaître son impuissance par rapport à ça, c'est aussi donner la dignité à l'alcoolique, enfin à la personne qui a un problème d'alcool, de prendre en charge la responsabilité de sa maladie et de son rétablissement. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a des couples en fait qui, une fois que l'alcoolique a arrêté de boire, en fait les couples ne tiennent plus parce que le couple était construit sur un truc dépendance codépendance et du coup ça fonctionne plus.
Et est-ce que l'alcoolique ne devient pas de fait ou malgré lui un pervers narcissique quelque part, c'est-à-dire où il sert de sensu quelque part en fait en bouffant les sentiments des autres quoi là. Je sais pas, c'est une question. Apparemment, c'est une bonne question.
On sèche un peu, mais après, il me semble que les pervers narcissiques, c'est encore autre chose.
Bien sûr, mais est-ce que ça n'entraîne pas c'est une maladie à part entière, sans parler d'alcool, quoi. Mais est-ce que l'alcoolisme ne vient pas une espèce de pervers narcissique qui se nourrit finalement des sentiments des autres pour pouvoir survivre lui-même ou surmonter ses problèmes.
C'est vrai que j'ai entendu. Excuse-moi, Anne, je te coupe, mais j'ai entendu dire que j'ai lu dans les textes que l'on a que il n'y a pas d'alcoolique, par exemple. Un alcoolique sur une île déserte, il s'arrêterait de boire en fait. C'est comme si ça se nourrissait aussi de l'entourage en fait. C'est interdépendant.
Ça c'est intéressant ce que vous dites là, parce que vous croyez qu'un alcoolique sur une île, perdu sur une île, arrêterait de boire.
Peut-être.
Déjà, voilà, c'est ça. Oui, déjà, ce sera un peu plus compliqué.
J'avais jamais pensé
surtout si l'île est déserte.
Nous, en fait, c'est à nouveau pour recentrer le débat. Hein, c'est l'alcoolique, c'est pas notre problème, en fait. Hein.
Oui, c'est vrai que.
En fait, voilà. Oui, c'est
il
vrai.
Revient toujours.
Nous,
sur
on revient en allant pour nous.
C'est tout ça. Oui, voilà. C'est quand même ça aussi le problème.
Mais il y a aussi beaucoup de déni dans l'entourage de l'alcoolique. C'est vrai que parfois, on a des personnes, parce qu'on a aussi une ligne téléphonique qui est dédiée aux personnes qui souhaitent nous contacter. D'ailleurs, tout à l'heure, je donnerai peut-être, enfin, je sais pas si
c'est
le numéro, mais enfin,
pas de problème.
Eh bien, en fait, les personnes, parlent beaucoup de l'alcoolique, mais ne voient pas que dans leur attitude, dans leur propre comportement, il y a vraiment du boulot, quoi, à faire, quoi, pour, et nous, en fait, toute la difficulté, c'est de faire prendre conscience aussi aux gens, mais en fait, c'est elles qui prennent conscience elles-mêmes, en fait, parce qu'on n'est pas, on donne pas de leçons, on ne fait que suggérer des choses, quoi, en fait, hein. Et on parle de nous, donc en parlant de nous, on leur parle aussi à elles ou à eux. Je sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs dans tout ça, mais en fait voilà, je parle du déni en fait de l'entourage, des gens qui appellent, qui mettent tous les torts sur l'alcoolique. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, surtout notamment au niveau des couples, c'est toujours, interdépendant, comme je disais tout à l'heure. Que ce soit entre deux conjoints, un homme, une femme, ou un homme, une femme aussi, une mère par rapport à son enfant, ou un enfant par rapport à son, à son parent, quoi,
c'est
en fait.
Ça, c'est vraiment un programme, en fait, pour nous. Enfin, moi, en plus, comme l'alcool est maintenant loin, depuis en fait mon enfance, mais je me nourris en fait des du programme pour me développer personnellement, spirituellement.
Les auditeurs ne le voient pas, Max, mais depuis que vous êtes arrivé, vous avez un petit livre devant vous. Il s'intitule comment, donc, ce livre-là?
C'est vrai que c'est un peu ma Bible.
C'est ma Bible à la main.
J'ai cru que c'était une Bible à un moment, d'ailleurs.
C'est un ouvrage qui fait partie de la littérature, du coup, approuvée par les services mondiaux des groupes Al-Anon, qui s'appelle Le Courage de Changer. Et alors, c'est des pensées quotidiennes qui parlent de différents thèmes. Alors, on a beaucoup de... Vous voyez, beaucoup de thèmes, en fait. Alors, déjà, la base de notre programme et de notre rétablissement, sont les 12 étapes. Donc, après, je parlais tout à l'heure de la deuxième et troisième étape qui fait qu'on avait recours à une force bienveillante. Ensuite, il y a tout un processus avec la quatrième, cinquième, sixième et septième étape qui sont une sorte de nettoyage, d'introspection un peu analytique sur notre propre fonctionnement. C'est-à-dire que on s'aperçoit que on a des traits de caractère qui sont pas forcément les plus fonctionnels et que on peut en fait essayer de s'en défaire grâce au programme et d'avoir une vie meilleure, et c'est ce que propose en fait le programme. Et ce qui nous dit d'ailleurs, c'est vous trouverez du bonheur et du contentement dans votre vie, que l'alcoolique boive encore ou non. Donc c'est vraiment, vous voyez, en fait, pour nous, on vient parce que on est en détresse par rapport à un problème qui nous a fait venir. Mais après, finalement, c'est pas vraiment la question, quoi. La question, c'est notre rétablissement. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Et si je suis pas heureux dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour être davantage heureux et pour avoir vraiment ce que je veux, quoi?
Et d'ailleurs, au sein de l'association, il y a des Al-Anon, enfin, du groupe, en tout cas, de Rennes, hein, il y a des personnes dont les époux sont décédés depuis des années, ou même le mari est rétabli de l'alcool depuis des années, mais qui continue à venir parce qu'en fait il y a une utilité dans la vie de tous les jours, en fait, parce que en fait on se rend compte que si on a un problème si on a rencontré un alcoolique ou qu'on a un enfant alcoolique, c'est dans notre quotidien, en fait, dans tous les groupes que l'on côtoie, que ce soit la famille, que ce soit le travail ou en société, dans d'autres associations, en fait, on a tendance à répliquer ce comportement, en fait, maladif avec les autres personnes de notre entourage, en fait, mais pas qu'avec l'alcoolique, en fait. L'alcoolique, c'est parce que c'est lui qui vit, on vit sous le même toit, en fait, mais en fait, c'est une structure enfin, c'est une maladie, quoi. On est autant malade en étant dans l'entourage qu'en étant alcoolique, en fait.
Ça fait partie aussi, le fait, vous parliez d'anciens membres de l'association qui restaient encore, même lorsque le problème était résolu. C'est aussi, ça fait partie aussi de ces 12 points, là aussi, la volonté d'aider ceux qui connaissent ça.
C'est la transmission du message.
Exactement, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un programme en 12 étapes et, donc j'évoquais les 4, 5, 6, 7 qui sont justement une sorte de nettoyage personnel, 8 et 9 aussi, puisque en fait on peut essayer de réparer le parce que souvent on voit un petit peu de manière dichotomique le vilain petit canard, l'alcoolique comme le vilain petit canard, et puis la sainte colombe et en fait voilà, en pratiquant le programme, on s'aperçoit qu'on a aussi nous des pensées qui peuvent être, enfin des pensées ou des attitudes, etc., qui sont pas très heureuse non plus, et qu'on peut s'améliorer, en fait. Alors la 12e étape, justement, c'est comme résultat de ces étapes, nous avons alors transmis le message aux autres personnes, en fait, hein. C'est-à-dire que fort de l'expérience de rétablissement des 11 premières étapes, c'est-à-dire donc un relèvement personnel, spirituel, etc., et on devient dans la capacité de pouvoir finalement aider les autres personnes qui ont les mêmes difficultés, et c'est une sorte de cycle, parce que souvent on dit c'est en redonnant ce qu'on nous a donné qu'on garde ce qu'on a, c'est-à-dire on vient, on nous a accueillis, moi je me souviens des premières réunions que j'ai faites et des sourires qu'il y avait, de la bienveillance qu'il y avait, inconditionnelle, et aujourd'hui si je peux aider quelqu'un dans la mesure de mes capacités, je le fais avec plaisir. Ça fait partie du processus, en fait, de rétablissement, et qui est en fait dans les outils, parce qu'en fait dans les outils il y a les réunions, la littérature, et il y a le service, c'est-à-dire avoir du service, redonner ce qu'on nous a donné, en fait, simplement.
On s'écoute un petit
X. Exactement.
Ah, vous allez tranquille. Le dire.
Voilà, tranquille, il nous reste encore un petit peu de temps.
up, drowning beast of a drying hands up. With guilty, down on his face, and crippled, hidden in his heart. Shaved on a demon, let an angel heart. Whenever he stands a hell, you wonder him, and he's telling you. In a constant place where victims are guilty, justice is forever sentenced to death, sentenced to death.
Take a look, take a look behind the
there's a stone on the face in the heart of the future, and a tear on the floor in the memory of you.
And a finger, and a finger
raised for you,
raised for you.
He's a smiling beast and a crying angel, smiling beast and a crying angel. With guilty down on his face, head crippled, hidden in his heart. You can look an angel in jail, a demon will cut out.
Et bien voilà, ça y est, on est à l'antenne.
Ah, hein. Oui, c'est bon.
Et ben, on est toujours en compagnie des Grignoux, toujours en compagnie de Alanon, association dont on a commencé, on commence à avoir une image un peu plus précise. Alors justement, pour en avoir encore une un peu plus précise, généralement, Alanon, donc il y a une antenne sur Rennes, mais il y en a partout en France.
Bah oui, il y en a partout en France et donc il y a 200 groupes en France. On va trouver ça dans des villes de taille moyenne, par exemple en Bretagne, on peut trouver ça à Brest, Lannion, Saint-Brieuc. Là, je fais ça de tête, hein, mais à peu près.
Il y en a plein là-bas, là.
À Saint-Brieuc, vous dites.
Ou Brest aussi, alors.
Bah un peu partout, je pense, à mon avis. Et voilà, donc en fait, c'est pas forcément que à Rennes, dans des grandes villes.
Et donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres moments, donc il y a des moments où vous réunissez, vous parlez, est-ce qu'il y a des moments où vous partagez des moments plus festifs, des moments plus conviviaux, on va dire des repas, ce genre de choses?
Il y a des anniversaires qui sont sympas, où il y a tous les groupes qui peuvent être invités, en fait. Hein, par exemple, on a fait notre anniversaire, il y avait des gens de Saint-Brieuc, etc., qui venaient.
40 ans, ouais.
Les 40 ans, ouais, d'Alanon, Rennes. Et voilà, il y a des moments comme ça. Après, c'est souvent des réunions. Et puis, après, on peut se rejoindre aussi pour donner du service, donc effectuer des choses comme on fait maintenant, parler à la radio, faire des présentations, etc. quoi.
D'accord.
Et lors de ces réunions-là, il y a une dominante féminine, non, je suppose, ou est-ce qu'il y a une parité, est-ce que c'est plus dur, enfin ma question en fait indirectement, est-ce que c'est plus dur pour un garçon d'aller voir Alanon, parce que c'est peut-être plus compliqué de dire que sa femme est alcoolique, par exemple. Je parle là de plus de compagnon et de mari que de...
Je sais pas. Nous, dans notre groupe, oui, peut-être il y a plus de femmes. Après, au niveau de la difficulté, je sais pas s'il y a vraiment plus de difficultés selon le sexe qu'on a.
Oui, ou plus de tabous peut-être.
Oui, peut-être. Et est-ce que il y aurait plus de personnes à avouer ou à...
Enfin... Par contre, c'est un fait que dans les réunions à l'annonce, il y a quand même une dominante féminine. Hein. Il y a beaucoup de conjointes. Et alors, il y a une autre fraternité qui est un peu cousine. C'est les EADA, les enfants adultes d'alcooliques, en fait, qui se sont créés justement un peu en un petit peu en différenciation avec Al-Anon, parce que justement c'est souvent la question du conjoint, même si c'est pas l'objet de la fraternité en premier. Mais donc il y a les EADA en fait qui sont des Al-Anon, mais spécifiquement enfants d'alcooliques en fait.
D'accord. Pour le donc où ça spécialise en fonction comme ce qui montre que le problème ne touche pas forcément. C'est vrai qu'on parle d'alcoolisme, on pense souvent au mari ou à la femme et on oublie les enfants, on oublie l'entourage.
Alors du coup, au niveau de son fonctionnement, je suppose que vous avez un local sur Rennes parce que l'heure tourne. Voilà, il nous reste qu'un petit quart d'heure. Ça fonctionne comment lorsqu'on veut vous contacter?
Eh bien, il y a des répondeurs régionaux, des numéros régionaux. Pour le département 22 et 35, c'est le 07 68 35 93 34. Mmh. Pour les départements 29 et 56, qui sont plus à l'ouest dans la Bretagne, eh bien, c'est le 07 81 05 02 80. Et nous, à Rennes, on a un portable du groupe qui est le 07 69 53 05 15. On peut retrouver tous ces numéros-là sur le site. Oui, il y a juste à taper à l'annon sur.
On retrouvera tous les contacts sur le blog.
Sur le site. Et donc,
Rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi par rapport aux occasions particulières, il existe aussi des conventions, en fait. Donc, il y a les anniversaires de groupe et il y a aussi des conventions qui sont des grandes réunions qui peuvent durer sur un week-end, en fait. Et alors là, c'est l'occasion. Il y a d'ailleurs des conventions qui sont jumelées avec les AA et les Al-Anon. Et donc, du coup, c'est l'occasion aussi de fêter notre établissement en fait avec d'un côté les A, de l'autre côté les Al-Anon et voilà, donc c'est des occasions particulières avec vraiment beaucoup de monde, beaucoup de réunions, beaucoup de thèmes, beaucoup de partage, c'est très nourrissant en général.
Et dans le fonctionnement de l'association, vous avez des permanents ou vous êtes tous bénévoles
Non,
comment ça se passe en fait, il y a...
Alors... Ouais. Déjà, on se finance par nous-mêmes en fait. On n'a pas de, en fait, on se dit pas bénévole, on se dit membre. D'Al-Anon, membre, on peut être membre simple ou membre serviteur en fait, parce que évidemment il faut que ça tourne quoi en fait, donc il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de, on offre le café aux personnes, enfin on boit du café, ouais. Du thé, il y a des gens qui s'occupent de la littérature, il y a des gens qui sont représentants du groupe lorsqu'il y a des réunions régionales.
Sont les questions de service, mais je crois que la question c'est plutôt par rapport au financement. C'est ça, hein,
oui, enfin, comment ça, vit l'association, est-ce qu'il y a des permanents, est-ce que
vous êtes... l'association elle subvient à ses propres besoins grâce aux contributions volontaires de ses membres. Il y a pas de personne qui gouverne en fait.
D'accord.
On ne reçoit aucune subvention de
Le financement se fait de manière volontaire et autonome.
À chaque réunion en fait, on fait tourner un chapeau. Aussi quand on fête notre anniversaire, ça fait un an qu'on fait partie, voilà, on peut donner un peu plus, mais on a absolument pas de montant en fait. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. La première réunion, on demande pas de contribution financière, enfin on participe pas au chapeau quoi. C'est voilà. Mais si on peut donner que 10 centimes, on donne que 10 centimes quoi. C'est vraiment
Et donc c'est de l'argent qui sert en fait, comme on dit, on transmet pas le message pour avoir de l'argent, mais on a besoin d'argent pour transmettre le message, et donc du coup c'est la raison pour laquelle le chapeau qui s'appelle notre septième tradition en fait tourne, et ça sert à payer le loyer de la salle, à payer la littérature, le café, les bonbons, etc.
Et à Rennes, je sais pas si on va appeler ça des, il y a combien d'adhérents, je sais pas si c'est le bon terme, ou de membres, oui.
Il y a une bonne trentaine quand même, je pense.
Une trentaine.
Ouais. Alors des fois tout le monde est là, parfois après ça dépend des périodes de l'année, hein, mais en gros, enfin on est bien 10-15 aux réunions en fait à peu près, non?
Je pense, ouais.
Ouais, c'est ça, voilà, grosso modo. Mm-hmm. Ouais. Et avec des gens qui sont là depuis le depuis l'origine, depuis la création quasiment. Hein.
Et justement, ça date de Alanon à Rennes, ça, c'est une quinzaine d'années.
On a fêté les 40 ans le 17 mars.
Ans,
oui, d'accord. Oui, les 40 ans d'Alanon à Rennes avec des oui. Justement le récit des débuts de d'Alanon dans des lieux, enfin dans des salles qui étaient dans le quartier de Villejean et quand il a pu être possible de payer le loyer, les réunions avaient lieu dans la 4L d'une des membres. Enfin, vous voyez, ça a été vraiment, enfin voilà,
quoi. Une 4L break.
Ben oui, oui, ben. En... Mais oui, voilà, c'est des parce qu'on ne veut avoir aucune subvention pour pouvoir en fait.
C'est vrai qu'une des traditions importantes en fait de la fraternité, c'est l'autonomie et on ne souhaite absolument pas, c'est-à-dire qu'on il n'y a pas de d'affiliation. On peut coopérer avec d'autres structures, mais
des structures musicales,
c'est
oui,
important
ouais.
qu'on reste autonome et de manière à ce que les 12 étapes et les 12 traditions puissent fonctionner en fait d'elles-mêmes et ça marche bien comme ça.
Donc du coup, il y a quand même une hiérarchie. Il doit y avoir. Est-ce qu'il y a un Al-Anon central auprès duquel vous avez des comptes à rendre? Je sais pas. Non, les structures.
Ah non, c'est plutôt le contraire en fait. Enfin, la hiérarchie, c'est les groupes vers. Ce qu'il y a. Vas-y, explique tout ça.
Je suis pas un spécialiste, Max. mais disons que c'est quand même un petit peu hiérarchisé, mais au sens c'est structuré. C'est-à-dire qu'il y a le groupe, après il y a le groupe au niveau local, après il y a des comités de région, il y a des comités nationaux, après il y a les services mondiaux. Voilà, donc c'est structuré, mais il y a pas de comme c'est dit aussi en fait dans les traditions, nous sommes tous des serviteurs et il y a pas de dirigeant. De la même manière, sauf pour des besoins spécifiques, les personnes ne sont pas employées par Al-Anon. C'est-à-dire que bon, s'il y a besoin d'un secrétaire pour un comité littérature avec beaucoup d'éditions, il va y avoir la nécessité d'embaucher une ou un secrétaire, mais il y a pas de on peut avoir des employés spécialisés de manière ponctuelle, mais voilà, il y a pas de système de d'emploi en fait.
Il y a des campagnes nationales qui sont initiées par par une sorte de direction, etc., pour développer l'action d'Al-Anon dans telle ou telle direction.
Alors, moi, vous parliez de 40 ans d'existence, et c'est vrai, moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines par le biais d'un article de West France. Tant mieux, c'est pour ça que vous êtes là quelque part. Et c'est vrai, j'ignorais complètement que ce genre de structure existait.
Bah oui, c'est assez peu connu finalement, Al-Anon. Moi c'est pareil, hein, j'ai découvert ça et un peu comme ça, je connaissais pas du tout non plus, quoi.
Ouais, parce que Alcoolique Anonyme, ouais, tout le monde voilà. connaît plus ou moins cette association. Mais effectivement, Al-Anon, donc, dans le Trégor, je suis sûr qu'ils disent dans le Trégor Al-Anon, ça c'est
sûrement,
sûr.
Sûrement, ouais. Surtout si on mange des petites moussettes.
Tout à fait. Et donc, du coup, je me demandais s'il y avait, je sais pas, moi, des campagnes, de nationales qui étaient lancées parler de sensibilisation, j'en sais rien.
Je me demande s'il n'y a pas il doit y avoir un comité d'information publique qui doit s'occuper, justement, du développement. Alors, il y a une tradition qui est importante aussi pour nous, c'est la 12e tradition, en fait, qui nous parle de... Je crois bien que c'est celle-ci, oui. Qui nous parle de l'attrait plutôt que la réclame. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche pas à ce que des membres viennent comment dire en fait en réunion en fait, c'est-à-dire que le propos, il est simplement de partager comme c'est dit son expérience, sa force et son espoir, et s'il y a des personnes qui se sentent concernées, elles sont les bienvenues. Voilà, on pas de racolage, quoi. Voilà.
On s'écoute. Oui, un petit disque, puis après il va être temps de se dire au revoir, mine de rien, avec tout ça là. Allez, c'est parti.
Everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail, we just came to raise a little hell.
Finir l'émission, un petit morceau péchu de notre ami Grovitch qui est de retour et on voit bien la différence avec le vieux reggae mou de l'équipe Tom Grossou du début d'émission pitoyable qui a failli nous endormir. Jean-Loup?
Rien, bah juste, il nous reste plus que deux minutes pour conclure.
Pour dire au revoir à nos invités.
Ouais, à Max, Caro et Anne. De l'association Alanon. Les réunions, c'est régulier, on en a...
Les réunions, c'est les...
Vendredis?
Les premiers, les troisième et cinquième vendredis du mois, à 19h30 et au 22 boulevard de la Liberté à Rennes.
D'accord.
Donc, à deux pas d'ici. Oui, en plein centre-ville,
ouais. Ouais, ouais. En tout cas, c'est une fraternité, vraiment, où on apprend à s'aimer soi-même, à s'estimer, à avoir des relations saines avec soi et avec les autres. Et moi, ça me procure beaucoup de joie.
Eh ben, ça va être le mot de la fin. On vous remercie tous les trois d'avoir passé cette soirée
merci
caniculaire.
À vous de nous avoir invités.
On dit un peu que le 21 juin, c'est aussi le jour d'Odin. Et ben voilà, le jour plus long jour de l'année. Hein. Vous savez que dans le temps, ce qu'on appelle les païens, comment vénéraient déjà ce jour où effectivement il fait très jour et c'est magnifique. On n'a jamais eu un printemps pareil. Certains superstitieux diront que c'est grâce à Macron.
Faut croire, depuis qu'il est là, tout va bien. Là.
Mais en fait, naturellement, tout le monde aura bien vu qu'il s'agit tout simplement du réchauffement planétaire et qu'on aura beau temps pour la fin du monde. Ça va au moins nous consoler.
Allez, on vous dit salut, à la semaine prochaine.
À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Merci, au revoir.